Audiolib présente Entre la source et l'estuaire de Grégoire Domenac, lu par Stéphane Varupen. À Sabina Ayan Arstanbekova, à Ernest. C'est à mon ombre seulement que je puis parler comme il faut. Sadeg et Dayat. Chapitre 1. C'est une étrange histoire que le temps n'est pas parvenu à éroder de ma mémoire. Elle remonte à plusieurs années, alors que j'accompagnais mon père, dont le métier était de convoyer des bateaux achetés en Hollande afin de les revendre en France. Dans le port de Leeuwarden, en Frise, il avait fait l'acquisition d'un vieux remorqueur, l'Argo, doté d'une coque en acier riveté qui venait d'être carénée dans les chantiers hollandais. Pour qui s'y connaît un peu en la matière, ce bateau était un véritable bijou, et en raison de sa rareté, pouvait se revendre une petite fortune. On descendit par les fleuves et les canaux à travers les Pays-Bas, la Belgique, les Ardennes pendant 4 semaines, et ce jusqu'en Alsace, où nous disposions du contact d'un ancien marinier. L'homme était réputé pour son réseau d'acheteurs et de collectionneurs, on nous l'avait chaudement recommandé, mais aucune proposition ne nous parvint. On resta à quai près d'un mois avant de reprendre la navigation. Mon père suggérait de tenir le cap de la Côte d'Or et de rejoindre Saint-Jean-de-Lonne. À l'écouter, les bateaux s'y revendaient très bien. On remonta le Rhin, lentement, l'Argo nous propulsant contre la force du courant. Puis on bifurqua à hauteur de Nifer, et après quelques jours, on s'engagea sur le Doubs. La rivière serpentait entre les vallées de Franche-Comté, dans un paysage recouvert d'immenses forêts, des forêts denses de sapins sombres et de feuillus, jalonnées de villages où se dressaient de belles maisons en encore bêlement. Le lit du Doubs s'élargissait et se rétrécissait, encaissé entre les parois de falaises empanachées de pins. À certains endroits, il fallait rester vigilant à cause du faible tirant d'eau ou des variations de courant. Nous allions seuls sur la rivière, méandre après méandre, et au crépuscule, on dénichait une petite crique abritée du vent afin de jeter l'ancre et passer la nuit. Le soleil disparaissait derrière les montagnes au moment où montait le coassement des grenouilles. Puis après le dîner, lorsque mon père rejoignait sa cabine, je demeurais un long moment sur le pont à fumer une cigarette, lire un peu, savourer un verre de kirsch tout en contemplant la lune. Elle était pleine, ronde, bien enflée, distincte à la surface de la nuit comme un ocelle sur l'aile d'un papillon. Son reflet s'allongeait sur la rivière, enivrant les poissons qui venaient crever la surface comme s'ils cherchaient à boire le lait de la lune. Sur le pont arrière, je réfléchissais à un tas de choses, en particulier au sens que je voulais donner à ma vie. Non seulement je me sentais étranger à tout impératif du monde moderne, mais je ne savais surtout rien faire d'autre que naviguer sur les cours d'eau. Pour preuve, le seul permis que je détenais était le permis bateau. Je ne pouvais me targuer d'aucun diplôme, ma vie s'était résumée jusqu'ici à seconder mon père à bord de la péniche qu'il avait pilotée sur le Rhône, la Saône, la Seille, durant des années, avant que le métier ne tombe dans l'escarcelle de la désuétude. C'était la raison pour laquelle nous nous étions reconvertis dans la revente de vieux bateaux, avec plus ou moins de succès. Au cours de ces soirs de solitude, à bord de l'Argo, mes yeux et mes pensées s'en remettaient à la bougie que je disposais sur une petite table de bois à l'arrière du poste de pilotage. La flamme attirait des nuées de moucherons qui se grillaient les ailes et se jetaient comme des kamikazes dans la cire brûlante. Tout autour du remorqueur, l'épaisse et mystérieuse végétation du rivage tombait dans l'eau, à la façon d'une obscure mangrove où les chants d'oiseaux faisaient écho à ceux des batraciens, parfois interrompus par des craquements de branches. La chaleur s'atténuait, une fraîche humidité remontait de l'eau et la nuit ensevelissait les montagnes, la forêt, la rivière. En journée, on avait parfois la sensation de remonter l'Amazone ou l'Orénoque, ou l'un de ces fleuves mythiques, tant cette forêt sauvage épousait les contours de l'eau, se mêlait à elle dans des camaïeux de vert et des combinaisons de bleus.